je m'appelle Christian Rosset. Je fais entre autres choses de la radio. C'est à la fois une activité principale, mais ce n'est pas la seule. Et j'ai démarré en 1975, à l'âge de 19 ans, à l'atelier de création radiophonique. Je suis donc dans ma 39e année de création radiophonique et j'ai l'impression de tout juste commencer. Au départ, je suis compositeur de musique et j'ai fait des études d'architecture et d'art plastique. Mes premières émissions à la radio étant liées à ces deux activités. De plus en plus, je suis quelqu'un qui travaille l'écriture, qui écrit des essais, mais qui sont des essais littéraires sur les domaines artistiques. Plusieurs livres qui touchent à la radio, mais aussi à l'art en général, jusqu'à la bande dessinée. Le déclic, c'est le hasard, comme toujours. D'abord, j'écoutais la radio. À l'époque, France Culture est écoutée, d'ailleurs j'espère toujours maintenant, par des gens très jeunes qui découvraient des choses. C'est le hasard qui fait que j'ai rencontré un écrivain qui s'appelle Claude Ollier. J'avais trouvé ses textes intéressants et j'avais fait quelque chose de musical. Et Claude Ollier connaissait Alain Trutac. Enfin, lui, trouvant intéressant que je réalise mon projet, ce qui était une chance formidable pour moi, m'a donné les clés de la radio. Et puis ils m'ont encouragé, ils m'ont dit « mais pourquoi vous ne revenez pas faire quelque chose d'autre ?» J'ai dit « ah bon, j'ai le droit, je peux vous dire qu'après je n'ai pas fait beaucoup d'architecture et fait beaucoup de radio. » Voilà.
Oui, la question que j'étais en train de te poser c'est, bon, tu as un son à l'extérieur à faire, tu as le choix d'en prendre un à la radio, donc il fait partie du lot des maillettes dont on peut disposer, ou de prendre le tien, comment oui. Tu choisis ?
J'entends la voix de Yann, par Antoine, qui évidemment m'a plus que marqué. C'est vraiment la personne pour moi qui a été le formateur sans en avoir l'air. C'est-à-dire que j'ai travaillé 5 ans avec lui. Plutôt, je faisais mes émissions. C'est quand même incroyable de gamin entre 19 et 24 ans et c'était Yann Parentoen qui les mixait. Donc c'est par lui et grâce à lui que j'ai continué. Après, j'ai découvert très très vite son œuvre qui est considérable et il m'a appris beaucoup de choses, notamment à ne pas être comme lui. C'est ça un vrai maître, c'est-à-dire que j'ai cherché à l'imiter à un moment donné, et puis ça ne marchait pas, puisque je ne suis pas lui. Puisque lui, c'est quelqu'un qui travaille dans une sorte de fiction documentaire à partir du matériau brut autobiographique de sa vie. Alors que moi, j'essaye, mais peut-être un peu comme lui aussi, de faire parler beaucoup les autres. Dans des domaines plus culturels, entre guillemets, je fais parler des écrivains, des peintres, souvent des artistes. Plus que des gens comme ça, plus que des pêcheurs ou des tailleurs de pierre. Bon, c'est pas mon univers. Mais j'essaye aussi de m'exprimer à travers leurs paroles et d'exprimer quelque chose de mes préoccupations, tout en ne la ramenant pas. Yann Parentoen cachait sa voix au début, puis petit à petit on l'a entendu, mais c'était lui, la voix des autres, c'était une manière de s'exprimer. Et c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je fais de mon côté. Mais on est resté très proche jusqu'à sa mort, et c'est pour ça que j'écris d'ailleurs un livre qui était une manière de dire un peu qui il était et ce qu'il y avait comme forme de pensée chez lui et de création. Au fond, nous sommes des inventeurs de fiction à partir de choses prélevées dans le réel, mais on insiste toujours sur la fiction. On cherche à créer un monde qui est un monde qui dit quelque chose au-delà de la simple information. Il y a de l'information, mais il y a aussi une manière d'appréhender le monde qui est intérieure. Yann Parentoen disait que les voix glissaient vers l'aigu avec le temps, qu'il n'y avait plus de voix de terriens. Terriens, c'est-à-dire les gens qui ont les pieds qui vraiment sur terre, les paysans, les marins. Or, c'est drôle parce que lui, il a une voix particulièrement aiguë. Il disait que les intellectuels, les parisiens ont des voix de tête, alors que les paysans ont des voix graves. Et moi, ça m'a toujours amusé parce que je disais, moi, j'ai une voix plus grave que la sienne. Pourtant, je suis un parisien. Donc, c'est drôle. Par contre, la voix est le matériau de base, évidemment. On fait très attention à ce que les voix disent, mais on fait aussi attention aux voix en tant que son. Le tic-tac, le temps qui passe. Évidemment, il y a un art du temps et il faut faire oublier le temps à qui écoute. C'est aussi le but. Alors, dans la création radiophonique, c'est très important. On fait des fois des créations de 10 minutes, on fait des fois des créations de 3 heures. Alors, 3 heures, maintenant, il ne faut plus trop rêver, mais on l'a fait. Or, il ne faut pas que 3 heures paraissent plus longues que 10 minutes, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire oublier le temps. Peut-être que c'est un moyen de le faire oublier que de le donner à entendre et à le dérégler. Pour faire entendre le silence. Alors le silence, c'est la matière principale et fondamentale. C'est le rêve absurde de toute personne qui fait de la radio, et notamment cette radio-là, c'est de faire entendre le silence. On est tout le temps dans le paradoxe parce qu'on voudrait faire sentir le silence et on est obligé d'être bavard et de parler. La radio a horreur du silence. Dès qu'il y a un silence d'un quart de seconde, tout le monde se dit qu'est-ce qui se passe, l'émetteur a sauté ou quoi. Donc faire entendre le silence, c'est évidemment faire entendre un silence qui n'est pas vide. Et c'est sûr qu'il faut du silence dans la parole. Alors évidemment, si on a 3 heures, c'est plus facile. Les hésitations, les moments où on cherche, les moments où c'est très calme. Mais c'est pas la pureté, le silence. Hein. C'est quelque chose de... On sent bien. Pas le silence de mort, quoi. C'est le silence de vie, si on fait la différence. Quand c'était la bande magnétique qu'on pouvait couper avec des ciseaux, ça sonnait pas comme ça, c'était clac. C'est doux. Le montage, c'est la chose essentielle, pas seulement en radio. Pour moi, je pense que tout artiste, puisqu'on parle un peu de ça quand même, fait du montage quelque part, c'est inévitable. Alors, la radio, comme au cinéma, dans l'audiovisuel, c'est évident. Le montage, c'est construire quelque chose à partir de... Ben, c'est ce qui permet de sortir justement de ce qu'on ne peut pas accepter. À savoir le réel brut, qui pourtant des fois est passionnant. Une conception du montage qu'on a quelques-uns à avoir, c'est de ne pas savoir par avance l'émission qu'on va faire et que le montage nous permet de découvrir quelque chose. Mais comme quand on est en numérique, c'est plus compliqué parce qu'on est devant une cartographie, l'écran montrant tout ce qu'on a fait. Pour moi, on voit comme une sorte de carte dans laquelle on peut réintervenir ici et là. Alors qu'avant, on était dans la ligne. Hein. Une émission, c'était une ligne, c'était une bande. Et donc, on faisait des collants. Et puis, si on devait refaire un collant, il fallait revenir en arrière. Là, dans le montage qu'on fait maintenant, le montage numérique, c'est quelque chose qu'on peut visualiser. Ça change beaucoup les choses. Mais ça ne me déplaît pas du tout, parce que l'idée de cartographie est intéressante. Je vois très bien une émission complète sur un grand écran, on voit tout. Me fait penser comme un territoire, une carte géographique dans lequel on aura choisi une certaine circulation.
Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des.
Whip, des. Clip, crack,
des.
Bang,
des.
Bang,
et des.
Zip, shabam, pow, blop, whiz, shabam, pow, bop, whiz, shabam, pow, blop.
Vous avez choisi ça à cause de la bande dessinée. Pour moi, en radio, avec la bande dessinée qui nous a amené à penser qu'il y avait un lien aussi avec la radio, ce sont des arts qui sont impurs, qui n'ont pas une histoire ancienne, comme l'architecture, la peinture, la sculpture, la littérature qui remonte à l'Antiquité, ou le théâtre. Voilà, ce sont le cinéma, la radio, les arts audiovisuels, la musique électroacoustique, tout ce qui est fait avec des machines, et la bande dessinée en tant que forme qui n'est quand même réellement qu'au 19e siècle, timidement, et qui a donc moins de 2 siècles. On est des arts jeunes, donc hétérogènes, impurs, et c'est ça qui est jouissif. Voilà. Et puis dans la bande dessinée, ce qui est intéressant, c'est cette disjonction entre les signes, puisque dans une page, il peut y avoir plusieurs cases ou plusieurs figures, et donc il se passe quelque chose entre ces figures. Comme à la radio, on a, par le montage, il y a quelque chose qui fait que la radio fonctionne beaucoup sur le non-dit. J'avais déjà fait pas mal de choses autour de la bande dessinée, mais quand Thomas Baumgartner, qui est un amateur de bande dessinée, a fait Les Passagers de la nuit, on devait faire des formes courtes. Et donc, comme il savait que j'avais écrit sur la bande dessinée, et que je faisais un certain type de radio, on a eu une sorte de contrat entre nous que je ferais un certain nombre de portraits. Il y en a eu 26 en une année, d'auteurs de bande dessinée, de 15 minutes, dont la règle était qu'ils étaient seuls à parler. Des fois, on enregistrait en studio, des fois dans la rue, enfin selon les cas. C'est une très montée avec mon univers sonore et musical. C'est-à-dire qu'à la fois, ils parlent, ils répondent à des questions. Et moi, à partir d'un énorme répertoire, parce qu'il a plusieurs années, enfin, qui fait des centaines d'heures maintenant de sons, de musique, instrumentale, électroacoustique, mais qui m'appartiennent toutes, je choisis pour faire le portrait. Comme si j'étais un peintre qui met un certain nombre de couleurs, de fonds. Voilà. Et la voix étant évidemment fondamentale, je me demande avec chaque auteur, est-ce qu'il faut que je mette des sons de pluie ou pas ? Est-ce que je dois mettre du piano ou pas ? Est-ce qu'il doit y avoir un son instrumental, donc ou pas, du violoncelle, la guitare, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que ça soit calme ? Est-ce qu'il faut que ça soit bruyant ? Est-ce qu'il faut que ça soit réaliste ? Est-ce qu'il faut que ça ne le soit pas ? Je pense que l'auditeur n'a pas à reconnaître. L'idée, c'est de les faire un peu rêver, parce que si je mets un orage avec de la pluie qui tombe à l'intérieur du métro, ce n'est pas possible. Normalement, un auditeur qui aurait un grand souci de réaliser, dirait « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? On se fout de nous ou quoi ?» Or, c'est du son, c'est physique. On ne doit pas comprendre qu'il y a la pluie qui tombe dans le métro, on doit entendre ces deux sons comme étant un moyen de mieux entendre la voix de la personne qui parle, qui est mélangée avec. C'était ça le projet. Et puis l'idée du portrait, moi, j'aime bien. Ça s'appelait « Avis d'orage dans la nuit » parce que j'avais fait un livre qui s'appelait « Avis d'orage en fin de journée » qui était paru. Et que comme ça passait dans la nuit, c'est pour ça, voilà. L'atelier de création de Phoenix s'est ouvert pendant de nombreuses années avec un bruit d'orage, enfin de tonnerre. Le son de l'orage est un des plus beaux qui soit. Ce n'est pas facile à enregistrer. Les sons de la nature sont, enfin, je veux dire, des précipitations, du vent, de la pluie, même la neige quand on marche, les pas dans la neige, le vent dans les feuilles, la pluie qui tombe, enfin toutes ces possibilités. Je crois qu'on peut passer sa vie à enregistrer ça et on a toujours des fonds sonores qui sont très importants. Je rajoute des fois presque rien, un tout petit peu de vent, quelques bruits de pas au loin, des choses qu'on entend à peine, pour que respirer. Parce qu'au fond, le projet de l'atelier de création radiophonique, c'était de sortir du studio quand même. Cette idée-là reste toujours essentielle. Et comme la réalité ne m'intéresse pas plus que ça, enfin la réalité, je veux dire brute, moi j'enregistre des sons pour les réutiliser donc, et les remixer. Mais bon, moi je préfère une émission d'une heure avec la pluie et l'orage derrière tout le temps. Je trouve que c'est agréable, sauf que ça influe sur le corps quand c'est trop humide. J'ai remarqué ça. Physiquement, l'orage c'est à la fois le court-circuit, l'électricité. Je pense qu'on parlait de montage, ce qui m'intéresse c'est de créer des court-circuits, quoi, quelque chose. Court-circuit, mais ou des coups de foudre. Enfin, toutes les métaphores que vous voudrez. Être physique. Moi, je suis dans un domaine, en plus, contrairement à Yann, qui est très intellectuel, puisque je m'intéresse à une certaine forme de poésie, d'écriture, qui est quand même assez... que d'aucuns diront élitiste. Moi, j'emploie jamais ce mot-là, mais qu'est-ce qu'on peut l'entendre à droite, à gauche ? Et moi, je veux prouver que non, au contraire, ça doit être ressenti aussi physiquement. C'est-à-dire, si on ne comprend pas, c'est pas grave si physiquement, on a ressenti quelque chose. Si je me remets à enregistrer, ça va être terrible. Parce que moi, quand je suis arrivé près d'une forêt, là où j'habite, j'ai passé mes jours et mes nuits à enregistrer tous les sons qu'il pouvait y avoir. Hein. J'en ai des heures et des heures et des heures. Tous les trains qui passent, parce qu'il y a des trains de banlieue qui passent. Tel train, tel autre, la nuit, tout ça, les saisons, les glands qui tombent, des arbres ou les châtaignes, les enfants au loin. Rien qu'avec cette banalité-là, on peut passer des années. Hein.